Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heures passées de quelques secondes sur votre radio locale sur Radion. Un très grand bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir dans Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Et aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter les différents intervenants enregistrés lors de la déambulation littéraire à Vézelay. C'était le 25 juillet dernier, dans le cadre du festival Nature en Livre, porté par l'association Hostellerie de la Tour, créée par Gertrude Dodard. Sixième édition du festival Nature en Livre qui, pour la deuxième année consécutive, a décidé de faire étape à Vézelay. Il y a eu d'autres étapes dans la Nièvre, notamment mentionnons Aligny-en-Morvan, Château-Chinon, l'Orme. Nous nous sommes intéressés à l'étape vézelienne avec les invités de Gertrude Dodard, notamment deux nouvellistes, Ella Ballert et Géraldine Doutrio, que je vous présenterai un petit peu plus tard dans notre émission, puisque vous les entendrez lire des extraits de leurs ouvrages. La semaine prochaine, ils participaient également à cette étape vézelienne de Nature en Livre. Vous entendrez Alain Quévès, créateur des éditions Rhubarbe, qui sont maintenant mises en repos. L'association existe toujours, mais les éditions, elles, sont arrêtées. Vous entendrez également aujourd'hui Martine Liégeois, présidente de l'association Romain Rolland, et la semaine prochaine vous entendrez également Claudie Stassard des éditions de La Goulotte. Un petit bonjour amical et chaleureux à Thérèse Prissigou, conseillère municipale et permanente de la bibliothèque municipale de Vézelay, et nous saluons également Gisèle Didi pour ses ateliers et le travail qu'elle a fait dans le cadre de Nature en Livre à l'Orme. Nous allons, si vous le voulez bien, ouvrir notre émission avec Christophe Gay, créateur des éditions Poisson d'Or, l'occasion d'un coup de projecteur sur un petit texte écrit en alexandrin et qui a pour titre « À l'hôtel du Lion d'Or, Vézelay 1900 ». Je vous propose d'en savoir un petit peu plus sur l'auteur de ce texte poétique qui s'appelle Raoul Toscan, né en 1884, disparu en 1946. Explication et développement, Christophe Gay.
Bonjour, donc nous sommes aujourd'hui réunis à Vézelay, devant l'hôtel de la Poste et du Lion d'Or, en bas du village. Et c'est cet hôtel-restaurant de qualité est entré dans la littérature par un poème en alexandrin d'un auteur de la Nièvre qui s'appelait Raoul Toscan. Raoul Toscan était né en 1884 dans la capitale de l'Argentine, où sa famille était émigrée pour des raisons économiques. Et il est rapidement revenu en France, à la Charité-sur-Loire, puis à Nevers, où il a commencé une carrière de poète et de peintre-dessinateur. Et dès les années 1907-8, il a créé une revue d'avant-garde qui s'appelait Le Coq. Voilà, il a commencé plutôt dans les sphères post-symbolistes de la poésie française, alors que tout au long de sa vie, il a cessé d'évoluer vers une forme de conservatisme régionaliste. Voilà, dans les années 20, 30, 40, il sera vraiment le chantre de la poésie de chez nous, comme il disait, donc très orienté régionaliste, patriotique, dans les traces, le sillage d'Achille Millien, par exemple, qui avait beaucoup collecté d'éléments du folklore nivernais. Donc un auteur plutôt au départ cosmopolite et d'avant-garde, qui va évoluer vers une forme de normes et d'ordre. Son texte à l'hôtel du Lion d'Or est particulièrement ressort à sa première période, écrite au début du XXe siècle. C'est une fantaisie rimée, consacrée aux amours adolescentes d'un jeune homme pris entre deux, deux jeunes femmes, deux jeunes filles, on va dire, qui étaient l'une sa cousine et l'autre une amie tendre. Et c'est un texte fantaisiste, avec beaucoup de charme, qui restitue bien la période de Vézelay estivale, à la fois déjà touristique, hein, au début du XXe siècle, et en même temps d'un certain... un certain confort social. Les gens qui vont en excursion ou en résidence à Vézelay sont d'un certain milieu. Et voilà, ce livre a été publié pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, en 1942, à Nevers, avant d'être réédité par Nos Soins en 2024 aux éditions Poisson d'Or, que nous avons créé récemment dans la Nièvre. Donc Raoul Toscan est aujourd'hui un peu connu et un peu reconnu pour la qualité de ses écrits sur les peintres et écrivains de la région Centre. Il avait fait une revue qui s'appelait La Revue du Centre. Donc ça comprend effectivement le Nivernais, mais aussi le sud de Lyon, le Berry, l'Orléanais, le Bourbonnais, voilà, toute cette province centrale. Et il a beaucoup étudié le patrimoine littéraire, historique, de cette région. Ses deux ouvrages les plus connus aujourd'hui sont l'épopée des mariniers de la Loire, qui s'attache à retracer l'histoire et l'historique des navigateurs sur la Loire, et puis une curieuse histoire de Nevers en deux tomes, qui avait toujours autorité aujourd'hui, bien que publié dans les années 30. Mais Raoul Toscan était vraiment un polygraphe, il a écrit à la fois des poèmes, des romans, des études donc historiques, de la critique d'art. Il était journaliste, il était aussi un des responsables de la médiathèque, la bibliothèque de Nevers. Donc voilà, il avait beaucoup d'activités autour de la défense et l'illustration du patrimoine de la Nièvre et les départements limitrophes.
Enregistré le 25 juillet dernier devant l'hôtel de la Poste et du Lion d'Or à Vézelay, dans le cadre du festival Nature en Livre, c'était Christophe Gay pour évoquer à l'hôtel du Lion d'Or, Vézelay 1900 de Raoul Toscan. La suite de nos enregistrements de ce festival Nature en Livre qui s'est arrêté à Vézelay le 25 juillet dernier, je vous propose d'entendre Ella Balert, agrégée de lettres, qui a publié des romans, des recueils de nouvelles, des poèmes, des livres jeunesse. On mentionnera notamment son roman La lettre déchirée, paru chez Flammarion Castor Poche en 2021, un roman d'ailleurs qui a été retenu par le ministère de l'Éducation nationale dans sa liste des ouvrages recommandés pour le collège. Ella Balert a reçu en 2021 le prix Bocasse de la nouvelle pour Poisson rouge et autres bêtes aussi féroces. Et je voudrais que cette fois-ci que nous nous arrêtions sur un texte qui revient sur la figure oubliée de Léona Delcourt. Le texte a pour titre « Léona D, la femme cachée dans le mythe de Nadja », paru en cette année 2026 aux éditions des femmes Antoinette Fouque. Il s'agit effectivement de revenir sur ce personnage qui a été la muse iconique et l'amante éphémère d'André Breton. C'est un texte qui explore la condition féminine de l'époque et la vie singulière de Léona. Elle aborde la folie, la marginalité, la misogynie, mais aussi la puissance de l'écriture pour réparer les oublis de l'histoire. Entre les années 1920 et aujourd'hui, Ella Balert tisse un dialogue sensible entre deux femmes, Léona, disparue trop tôt, et elle-même, écrivaine contemporaine en quête de sens, de traces et de justice. Écoutons tout de suite un extrait donc de Léona D, la femme cachée dans le mythe de Nadja, lu par l'auteur Ella Balert. C'était le 25 juillet 2026 devant l'hôtel de la Poste et du Lion d'Or à Vézelay.
Un chapeau, un manteau, une fourrure. Léona Camille Guylaine Delcourt. Un paletot laine, une robe, une chemise nuit, une combinaison. Les portes de l'infirmerie de la préfecture de police claquent sur toi, Léona. Un tricot, une paire de bas. Léona, saisie, emparée, désemparée, te voici dépouillée du peu qui te tissait vivante. Ce 21 mars 1927, tu dis, tu luttes pour le droit, le bien, la liberté. On dit, tu tiens un langage bizarre. Une paire de chaussures, un sac à main. Tu vois ces gens qui s'agitent autour de toi et tu en vois d'autres aussi derrière. On dit, elle a une maladie mentale. Ni argent, on te juge. Ni bijoux, on te place d'office. Ni papier de valeur, tu n'as plus rien. Sauf la peur, sauf le froid. On signe, docteur Logre. On t'enferme, dehors, c'est le printemps. Pendant très longtemps, Léona, sache que tu n'existais pas. Ni pour moi, ni pour beaucoup de gens. J'avais lu Nadja d'André Breton dans les années 80. Nadja était le titre d'un récit et le nom d'un personnage comme Madame Bovary. Une invention d'auteur, peut-être inspirée de loin par une figure réelle. Mais qui était derrière ce nom de Nadja? Y avait-il même seulement eu quelqu'un? Je ne me posais pas cette question. Tu étais cette question. Mais je l'ignorais. C'est peu dire que j'ai aimé ce récit à la première époque où je l'ai lu. C'est même peu dire qu'il m'a marqué. Il m'a offert le monde, en livre ouvert. Invitation à s'y aventurer, l'explorer, le deviner, le décrypter. Longtemps, comme tant de lectrices et de lecteurs, je n'en ai retenu que ceci. Nadja, c'est l'histoire d'un amour fou. Une histoire qui prouve qu'un tel amour existe et peut se rencontrer. Pendant des années, j'ai oublié le début du livre et j'en ai oublié aussi la fin. J'ai en fait, pendant des années, tout oublié de lui, sauf sa partie centrale, qui racontait à travers votre histoire, à Breton et à toi, la passion amoureuse, forcément dévorante, funeste, forcément absolue, forcément forcenée. Toi, Léona, tu n'existais pas. Je ne te voyais pas, je ne t'entendais pas, je ne te parlais pas. Nadja raconte ta rencontre avec André Breton en 1926. Le livre paraît au printemps 1928. À cette époque, tu es déjà interné. C'est l'année de ton transfert à l'asile de Bailleul. Il y a une bibliothèque là-bas, mais le livre de Breton n'y est probablement pas entré. Religieuses et directeurs veillant à la moralité de tous les documents présentés aux lectures collectives. Savent-ils seulement que l'énigmatique Nadja du récit est cette jeune démente de 26 ans que l'asile de Perret-Vaucluse leur a envoyée? Breton t'avait dédicacé Légitime défense. Nadja, je n'ai vu que toi peut-être. De même, moi, dans ce récit, je ne vois que toi. Disparues les autres femmes de la constellation d'André Breton. Simone, Lise, la dame aux gants, Suzanne. Elles n'existent plus dès que je referme le livre. Effacées, confondues en ma mémoire, dans un même injuste anonymat. Toi, seule, tu restes. Les autres sont retournées à la vie réelle. Toi, tu n'y es jamais entrée. Toi, dont personne ne connaît le nom véritable, toi, tu vis dans le mythe, sous un nom de scène. Les autres vivront 82, 81, 91 ans. Toi, 38 seulement. Mais Nadja n'est jamais morte. Mourir jeune pour ne mourir jamais, c'était le prix à payer. Toutefois, pour cela, il te faut croiser le chemin d'André Breton. André Breton te rencontre en 1926. Moi, je t'ai rencontré deux fois, sous ce nom de Nadja dans les années 1980, sous ton nom de Léona Delcourt en 2019. 1926. Ce 4 octobre, l'un comme l'autre, André Breton et toi, vous marchez donc sans but dans la rue Lafayette à Paris. Toi, Mélusine, tu es très pauvrement vêtue comme il convient aux fées des contes avant que leur nature magique ne se révèle. Tu marches les pieds à peine à terre. Tu ne souris pas complètement. Rien en toi n'est tout à fait réel, ni tout à fait fini. Mais tu vas, la tête haute, à nul autre pareil, mystérieuse, telle une porte dérobée, et cela suffit à harponner Breton. Ton œil est souligné d'un trait noir interrompu comme un commencement de maquillage que tu n'aurais pas eu le temps d'achever, dit-il. Cet œil extraordinaire capte, captive, capture le poète. Il le compare aussitôt à celui de Blanche Derval, l'actrice qui jouait le rôle d'une détraquée de la pièce qu'il vient de voir. Une dérangée, une folle. Lui, que ses amis Maneret ou Julien Gracq décrivent comme un roi, un général, un lion, il marche, crinière au vent. Léona la lionne et André le lion. Vous vous croisez dans la rue aussi arrogant l'un que l'autre. Vous croisez vos pas, comme on croise les doigts. Il faut croire aux arcanes et à la divination des hasards. Vous croisez vos regards, comme on croise les vers, car ce sera pour ton malheur. La fascination est mutuelle. Le sort en est jeté. Breton t'aborde. La rencontre a lieu, foudroyante, fortuite, fatale. Et elle n'a pas lieu. Avortée, déroutée. J'ai perdu. C'était prévu, n'est-ce pas ? Diras-tu quelques mois plus tard. Oui, Léona, c'était prévu. 2019, il est temps à présent que je te rencontre, Léona. Je suis alors en résidence d'écriture au Mont-Noir, dans la villa Yourcenar, près de Bailleul. On m'apprend que tu es enterrée en cette ville, car tu y es morte, internée à l'hôpital psychiatrique en 1941. Cette information réveille mes souvenirs. Déjà me reviennent des images, des lieux, des phrases, des noms. Déjà piétine en moi l'envie furieuse de relire ce texte, de renouer avec mes amours de lecture, de jeunesse, de retourner au mythe, à l'état de croyance, à l'émerveillement. Je fais une recherche sur Internet et je découvre avec émotion ton nom de naissance, Léona Delcourt. Le gardien du cimetière me guide, car on se perd vite en ce dédale. Et tout à coup, c'est là, me dit-il. Mais qui est là ? Est-ce Nadja ? Est-ce Léona ? À mes pieds est posée une modeste dalle. Le nom gravé dans la pierre, érodé par le temps, n'est pas le même que le nom imprimé sur la couverture du livre. Je regarde ton nom dans la mort, qui était ton nom dans la vie, qui n'est pas ton nom dans le livre. Et c'est là que je comprends, non pas intellectuellement, mais physiquement, que tu es là, Léona. De l'autre côté de ce miroir de terre, il y a quelqu'un, Léona Delcourt, allongée, quand moi je me tiens verticale, droite, même un peu raide. Tous mes efforts tendent à cela en cet instant, éprouver la réalité. Pas question qu'elle m'échappe, comme elle fait parfois. On enterre pas des mots, on enterre des morts. Léona, c'est ta mort qui te donne vie. C'est devant ta tombe, devant ce que j'imagine qu'il reste de ton corps réel sous la terre, que je prends réellement acte et de ta mort et de ta vie. Nadja est un mythe. Toi, tu as vécu.
Un extrait de Léona D, la femme cachée dans le mythe de Nadja par l'auteur Ella Ballert. Je rappelle que ce texte est disponible aux éditions des femmes Antoinette Fouque dans la collection Biographie. Un texte qui revient donc sur la figure oubliée de Léona Delcourt, plus connue sous le nom de Nadja, qui a été la muse et l'amante éphémère d'André Breton. C'était donc le 25 juillet dernier à Vézelay, dans le cadre du festival Nature en Livre. On va marquer, si vous le voulez bien, un premier intermède musical et on se retrouve juste après. Vous entendrez Géraldine Doutriot, qui a fait paraître aux éditions des femmes Antoinette Fouque le cas Marguerite Audoux. L'occasion de revenir sur Marguerite Audoux, écrivaine autodidacte, née en 1863 dans le Cher, à Sancoin. Et à l'âge de 14 ans, la petite Marguerite Audoux a été placée en tant que bergère et servante de ferme en Sologne. Le roman le plus connu de Marguerite Audoux, c'est Marie-Claire, qui a reçu le prix Fémina en 1910. Les ventes avaient d'ailleurs dépassé les 100 000 exemplaires. Marguerite Audoux a fréquenté de nombreux écrivains, dont Léon Paul Fargue, Valérie Larbeau, Léon Werth, Octave Mirbeau, André Gide et Romain Rolland, qui, vous le savez, s'installa à Vézelay dès 1938 dans une maison qui abrite aujourd'hui les collections du Musée départemental d'art moderne. On se retrouve juste après ces wagons livres sur Radion et nous sommes ensemble jusqu'à midi.
Tout se mêle, les deux cœurs à tes lèvres, je deviens un casse-tête. Ton rire me crie de te lâcher avant de perdre prise et d'abandonner. Car je ne t'en demanderai jamais autant. Déjà que tu me traites comme un grand enfant et nous n'avons plus rien à risquer à part nos vies qu'on laisse de côté. Et il m'aime encore et moi je t'aime un peu plus fort. Mais il m'aime. Et moi je t'aime un peu plus fort. plus dur à faire qu'autrement, car sans rire, c'est plus facile de rêver à ce qu'on ne pourra jamais plus toucher. Et on se prend la main comme des enfants, le bonheur ou l'œuvre un peu naïvement, et on marche ensemble d'un pas décidé alors que nos têtes nous crient de tout arrêter. Il m'aime.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
La suite des captations que nous partageons avec vous enregistrées lors de Nature en Livre le 25 juillet dernier à Vézelay. Nous allons maintenant entendre le deuxième auteur agrégé de lettres invité dans le cadre de ce festival littéraire éco-poétique 6e édition créé par Gertrude Dodard. Nous allons entendre Géraldine Doutriot qui va lire un extrait de sa biographie intitulée « Le cas Marguerite Audoux » paru aux éditions des femmes Antoinette Fouque, l'occasion de revenir sur l'auteur de Marie-Claire, roman qui a reçu le prix Fémina en 1910 et qui a connu un très très grand succès. Alors Marguerite Audoux a un lien avec Vézelay puisque cette romancière qui venait du peuple, a fréquenté des écrivains dont Léon-Paul Fargue, Valérie Larbaud, Octave Mirbeau, André Gide et Romain Rolland, qui, comme vous le savez, a vécu à Vézelay de 1938 à 1944. Sans tarder, un extrait de « Le cas Marguerite Audoux » lu par Géraldine Doutriot à Vézelay devant l'hôtel de la Poste et du Lion d'Or. C'était le 25 juillet dernier.
1933. Matin laiteux, petit nuage gris, pluie à venir. Marguerite peine. C'est comme si elle était sourde, en plus d'être presque aveugle. Quand elle pose côte à côte les mots sur le papier, elle ne voit plus si les couleurs vont ensemble et n'entend plus la vibration qui lui permet de décider si entre eux la musique est bonne. Entre deux versions de la même page, elle hésite depuis ce matin, comme l'âne perplexe de Buridan. Laquelle est la plus nécessaire, la plus juste? Laquelle est la meilleure? Rien ne lui fait signe. Tout se vaut aujourd'hui dans le même incolore. C'est comme si elle n'avait plus de personnalité, plus de préférence, qu'elle avait perdu et le goût et son âme. Une grosse panne. Pour faire repartir le moteur, elle pourrait, comme le font bien des écrivains, s'en aller puiser un peu de carburant chez les autres, prendre un livre, en ouvrir les pages, se ressourcer dans le pays carré et lumineux d'un Fénelon ou les rivières verbales d'un Chateaubriand, deux auteurs qu'elle a lus et aimés. Mais sinon un dictionnaire de langue française qu'elle ouvre de temps en temps, Marguerite Audoux n'a pas le réflexe d'emprunter aux autres les mots qu'elle ne trouve plus chez elle. Elle avait très peu lu. C'est son meilleur ami Francis Jourdain qui le dit. Elle a toujours écrit avec ce grand rien, n'a jamais convoqué d'autres géniteurs textuels qu'elle-même. Ses phrases, elle les a enfantées seule, sans le soutien d'un accoucheur. D'ailleurs, elle n'aimait pas les médecins. Malade, elle préférait se crever les ganglions d'une cuillère au fond de la gorge plutôt que d'en appeler un. Ses outils d'écrivain n'ont jamais été que sa vie, ses sensations et le ciel. C'est son seul caprice d'écrivaine, la vue sur le ciel. Celui qui lui a fait refuser la proposition de son amie Valérie Larbaud de venir s'installer pour écrire au calme dans son bel appartement cossu. Désolée, pas possible. Mais pourquoi? À cause du vis-à-vis. Parce que je serais incapable de travailler à mon livre si je n'avais pas le ciel directement devant moi.
Elle masse son cou, se tâte le front, ferme les yeux, tente d'acheter par quelques caresses ses organes qui se font la malle. Mais rien à faire, les doigts se crispent, le front tambourine, les yeux voient flou. Est-ce que débris de gâteau sonne mieux que miettes de gâteau ? Elle n'arrive plus à rassembler ses esprits. Et ça lui rappelle comment, autrefois, elle n'arrivait pas à rassembler ses agneaux dispersés dans le pré. Et c'est comme si on la poussait dans un ravin, jusqu'au fond de sa condition initiale. Une petite bergère qui perdait ses moutons. Et sous la terre qui accueillerait sa chute, il y aurait une autre trappe, et donc une deuxième chute, plus profonde, héréditaire celle-là. Une enfant d'illettrée. Et troisième trappe, fille d'un bâtard, auquel un méchant fonctionnaire de l'état civil a trouvé l'ironique nom de Don Quichotte. Elle a 70 ans, et pour la quatrième fois, ce sera la dernière. Elle s'est embarquée sur une petite barque de fortune pour l'odyssée d'un nouveau livre. Encore une fois, elle va devoir ramer à contre-courant de son siècle, affronter les cyclopes de son époque, qui, parce qu'elle est femme, ouvrière et âgée, menace à tout instant de la dévorer. Marguerite arrivera à bon port. La vie lui laissera pile la force de terminer son dernier roman, en 1936, à Saint-Raphaël, où depuis quelques années elle passe l'hiver. Juste le temps de glisser les pages dans une chemise bleue, de les confier à son fils adoptif Paul, et d'un coup elle s'affaiblit. Alors c'est l'hôpital, où la municipalité, ayant reconnu l'écrivaine autrefois célèbre, lui cède gratuitement une chambre. Elle y agonise plusieurs semaines, le temps de poser quelques derniers mots sur des cartes postales, côté face, plage et palmier, côté pile, les mots, peut pas écrire, dirait plus tard. Plus tard, elle meurt, non sans avoir invoqué les noms d'Églantine et Noël, héros de son dernier roman, et on pense à Balzac, qui appela le docteur Bianchon sur son lit de mort. Aujourd'hui, qui sait qui se cache derrière le nom de Marguerite Audoux, donné à cette bibliothèque du centre de Paris, à ce collège dans le Berry, à cette avenue à Saint-Raphaël, ou ce magazine féminin à 7 millions de lectrices dont le titre, Marie-Claire, a été choisi en hommage à son best-seller. À part quelques têtes chenues qui ont sué et collié il y a plusieurs décennies sur les dictées des passages les plus célèbres de Marie-Claire, La ferme, le repas du soir, le vacher, le loup. On dirait les titres de chapitres d'un vieux conte paysan. Sauf qu'il serait dit par la voix d'une enfant, et que ça change tout, et que ça le rend si singulier, qu'on devrait aujourd'hui s'en souvenir, et le lire, et l'étudier.
Un extrait de la biographie consacrée à Marguerite Audoux, lue par son auteur, Géraldine Doutrio, un ouvrage paru en 2025 aux éditions des Femmes Antoinette Fouque et qui a pour titre « Le cas Marguerite Audoux ». Marguerite Audoux, née en 1863, disparue en 1937. Son roman le plus connu, Marie-Claire, a reçu le prix Fémina en 1910, et c'est l'autobiographie romancée d'une fille du peuple qui avait été bergère et couturière à la journée. Marguerite Audoux est la fille naturelle d'un charpentier alcoolique et d'une journalière née Audoux, prématurément enlevée par la phtisie. Et c'est vrai que l'écrivain nous émeut par le simple récit d'une jeunesse misérable. Le roman a paru en 1910 avec une préface d'Octave Mirbeau et c'est un roman qui a vraiment connu un grand succès de librairie et qui a valu à son auteur l'estime d'Alain Fournier, de Léon Polfargue, d'André Gide, d'Anna de Noailles. Wagon Livre, compte rendu de Nature en Livre, festival littéraire éco-poétique, étape vézelienne du 25 juillet dernier. Je vous propose cette fois-ci, puisque nous l'avons rencontré derrière la maison de Romain Rolland, de découvrir l'association Romain Rolland à travers les explications de son actuelle présidente Martine Liégeois. C'était donc le 25 juillet dernier.
Marie-Romain Rolland, à sa mort, a fait une association qu'elle a fait diriger par Paul Claudel. Et cette association a très bien fonctionné avec des écrits, dans le monde entier, elle a tressé des liens. Il y avait des associations Romain Rolland dans pratiquement tous les pays. Et ça a duré jusqu'à sa mort en 85. Voilà. Je vous racontais l'autre fois que dans le garage, alors le garage il est là en fait, dans le garage il y a eu un concert qui a été organisé par Marie-Romain Rolland avec Wilhelm Kempf. Alors on avait amené un piano et puis voilà, pas forcément des initiés, enfin les gens venaient, les gens qui souhaitaient. Et en 85, voilà. Et puis après, bah, effectivement, il y a eu un effacement. Et il y a eu en 1994, il y a eu un colloque qui s'est fait à Clamecy pour le cinquantenaire de sa mort. Moi, je suis allée parce que j'ai toujours une maison à Brève, mais où il est enterré, parce que c'est de la famille de ses grands-parents paternels. Et en fait, je ne connaissais pas bien Romain Rolland. Donc, je suis allée à ce colloque. J'ai fait connaissance avec tout le gotha des universitaires de tout, un peu tous les pays qui restaient. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, enfin ça fait partie, hein, Jean, n'est-ce pas, de notre réussite d'association, c'est que quand on a commencé l'association, si vous alliez dans une librairie, vous demandiez un ouvrage de Romain Rolland, il y en avait un seul de disponible. C'est-à-dire qu'on pouvait vous sortir des rayons. C'était La vie de Vivekananda. Ça devait bénéficier de la mode du yoga à l'époque. Et donc, il n'y avait que ce livre-là de disponible. Et petit à petit, bon, avec l'association, on a travaillé. Maintenant, il y a une quarantaine d'ouvrages disponibles. Alors, c'est pas tout, parce qu'on évoquait avec Géraldine l'âme enchantée. L'âme enchantée n'est toujours pas éditée. On peut l'avoir que par le biais des bouquinistes ou sur eBay ou autre chose comme ça. Mais il y a quand même pas mal de bouquins qui sont sortis depuis, des éditeurs qui ont accepté de rentrer dans le jeu, et puis ça marche bien pour eux. Il y a des Albin Michel, qui était l'éditeur historique de Romain Rolland, a repris quand même pas mal de ses livres. Pas tous, hein, bien sûr, mais enfin... Oui, il est dans le domaine public, mais il faut que des gens aillent chercher les ouvrages ou... comment... Voilà. Donc, maintenant, quand on va chez le libraire, on peut avoir, ou alors on le commande et on l'a deux, trois jours après, quoi. Ça, c'est quand même, ça montre que Romain Rolland réintéresse quand même. Alors, on a des adhérents. Ce matin, j'ai communiqué avec quelqu'un qui est à Perth, en Australie, qui est on l'a connu comme doctorant en 2004, hein, à Shock Collins. Et maintenant, il est professeur d'université et il est professeur de littérature française. Et là, il m'a écrit qu'il faisait travailler ses enfants sur Jean-Christophe, ses élèves, ses étudiants plutôt. Et donc il m'a envoyé un article pour la prochaine revue, voilà. Donc alors on est en lien avec Kyoto, puisqu'il y a un institut Romain Rolland qui a été fondé par Monsieur Miyamoto, qui était le mari de l'actuelle présidente, et qui avait connu très bien Madame Romain Rolland. Et je vais évoquer Monsieur Miyamoto parce que, en fait, il a été au moment de la guerre du Japon et des États-Unis, il a été en prison, il a été torturé parce qu'il avait traduit Romain Rolland. Et il y a un poème qu'il a écrit en sortant de prison. C'est assez émouvant. Il dit « Je sors de prison, je marche dans les rues, je rentre chez moi, je me mets dans un coin d'une fenêtre et j'ouvre mon colabrognon. » C'est très, très émouvant aussi. Hein, voilà. Aux États-Unis, il y a eu évidemment des gens comme Holmes ou comme... qui ont été des correspondants réguliers. Là vient de sortir chez Garnier un énorme bouquin sur Romain Rolland et l'Amérique latine, parce que en fait il a dans les années 20, c'est-à-dire la période du gandhisme jusqu'à 35, la période communiste, il a eu des correspondants qui le tannaient pour avoir son avis sur tel ou tel courant de pensée. Et donc il a eu un nombre incroyable de correspondants, et on a la chance qu'un de nos adhérents soit maintenant au Brésil, et on a la chance aussi qu'il y ait des possibilités informatiques formidables. Presque tout est en ligne, tous les journaux sont en ligne, et il a réussi à avoir des informations dans tous les domaines.
Et donc, pour ça, moi je l'ai vu sur internet, ils accueillent Il y a un lieu.
Ah, alors, attendez, ça, c'est autre chose au Brésil.
Oui.
Vous avez vu, alors, c'est la maison Zweig.
Okay.
Et alors, il faut, justement, il est question de, avec Zweig, bah oui, bien sûr, ça aussi on peut parler, mais on pourrait parler beaucoup de beaucoup de correspondants.
Ouais.
Mais il y a une correspondance en 3 tomes qui est formidable, chez Albin Michel, évidemment, qui balaye toute l'époque des années 1910 à 1942. C'est vraiment énorme. Et voilà, dans les correspondants. Mais enfin, il y en avait un peu dans tous les pays, beaucoup. Là, en ce moment, on a un de nos correspondants qui est à Amsterdam, qui vient d'écrire un bouquin où il est beaucoup question de Romain Rolland et de la guerre de 14. Et là, maintenant, il se penche sur 35 avec la Bulgarie et avec Dimitrov qui a été concerné par le procès après l'incendie du Reichstag. Et donc là cet écrivain néerlandais va sortir ce bouquin, et justement on l'a mis en relation avec Philippe Mondeveux qui est donc au Brésil, et ils travaillent ensemble parce que Philippe Mondeveux va écrire sur Romain Rolland et la Bulgarie, très précisément, parce que c'est la Bulgarie, ça évoque évidemment les pays de l'Est, et il a été aussi très connu, et il a eu beaucoup de contacts avec les pays de l'Est.
Impossible pour le festival Nature en Livre d'oublier Romain Rolland qui s'installe donc à Vézelay en 1938 et qui y meurt le 30 décembre 1944. À l'instant, vous avez pu entendre donc la présidente de l'association Romain Rolland, Martine Liégeois. Je rappelle que les vice-présidents de cette association sont Jean Lacoste et Axel Mauger. Vous pouvez bien sûr adhérer à l'association Romain Rolland, vous libellez votre chèque au nom de l'association Romain Rolland, 1 rue Colas Brugnon, 58 530 Brèves. On va marquer un nouvel intermède musical et puis nous reviendrons sur Romain Rolland à travers les explications de Martine Liégeois. Je rappelle que si vous venez de nous rejoindre, c'est votre émission littéraire et nous sommes ensemble jusqu'à midi, et que nous partageons avec vous les enregistrements de la déambulation littéraire qui a eu lieu à Vézelay le 25 juillet dernier dans le cadre du festival Nature en Livre.
Tellement être là-bas avec toi, à ça.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Nouvelle halte dans ce compte-rendu de Nature en Livre, festival littéraire éco-poétique, journée du samedi 25 juillet à Vézelay. Nous allons à nouveau entendre la présidente de l'association Romain Rolland, Martine Liégeois, que nous avons enregistrée sur le chemin de ronde, juste derrière la maison qu'occupa Romain Rolland à Vézelay de 1938 à 1944 et qui aujourd'hui abrite les collections du musée départemental d'art moderne. Martine Liégeois revient d'ailleurs sur le legs de la collection Zervos au village de Vézelay.
La ville de Vézelay avait reçu en 1970 un legs assez formidable de Christian et Yvonne Zervos, qui étaient les auteurs des cahiers d'art et qui étaient amis de tous les artistes des années 20-30. Et il y avait plus de 800 œuvres qui ont été données. Avec notamment peut-être 400 ou 500 Picasso, enfin, c'est une œuvre considérable. Et il y a eu plusieurs conservateurs. Maintenant, il y a le musée travaille en partenariat avec Picasso Paris. Et donc, il y a des échanges. Et là, je ne sais pas si vous avez déjà visité à l'intérieur l'exposition, il y a des très très beaux, très très belles toiles. Et certaines sont prêté à Paris aussi. Hein. Donc là, il y a un échange formidable sur le plan artistique. Donc en fait, on se trouve devant une maison qui au départ était une maison que Romain Rolland a eu du mal à acheter parce qu'elle était chère. Elle appartenait au parfum Coty. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Enfin, peut-être les personnes les plus âgées, parce que c'était un parfum qui était en vogue dans les années 50. Et en fait, donc, avant, bien sûr, cette maison a été à vendre. Romain Rolland avait un peu de mal à la payer, mais enfin, finalement, il a réussi et il en était très content après. Il disait, cette maison me rappelle un peu Villeneuve, parce qu'il habitait en Suisse, à Villeneuve. Et il disait, c'est Mozart et mon autre maison, c'est Beethoven. Voilà, enfin, c'était pour dire par rapport au lieu. Et en fait, il a toujours été très fasciné, très heureux de cet environnement, parce que vous allez voir, quand vous serez dans sa chambre, il y a toute la vue sur les monts du Morvan, c'est absolument magnifique, quoi. C'était évidemment très, très inspirant pour un écrivain. Voilà, donc cette maison, alors il est mort là, il est venu en 38 et il a quitté la Suisse. Yannick vous lira certainement un passage sur les réfugiés espagnols en Suisse qui était dans le journal de Vézelay, donc je vais vous parler. Et en fait, les Suisses ont refusé un train entier d'enfants qui étaient des enfants de réfugiés de la guerre d'Espagne. Et ça l'a vraiment un peu écœuré, quoi. Donc il a décidé à ce moment-là de quitter la Suisse et de revenir en France. Et donc c'était en 38. Alors il y a quelques petites allées venues, mais enfin j'évoque cela parce qu'il y a un texte qu'on a choisi avec Jean Lacoste. Donc avant de continuer sur la maison, parlons de Jean Lacoste, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, qui est l'auteur du journal de Vézelay, c'est-à-dire il a fait toute la transcription d'un journal que Romain Rolland, du dernier journal de Romain Rolland, enfin de la dernière phase de son journal, c'est-à-dire 38-44. Il est mort en 44, il a écrit jusqu'à la veille de sa mort ses mémoires, et donc c'est ce journal qui est, voilà. Et merci Jean, et ça a été très très important pour la connaissance de Romain Rolland, et parce que le livre a été très très médiatisé, et ça a permis justement de remettre un petit peu Romain Rolland en selle au niveau des éditions. Alors là on est ici sur un autre lieu qui appartenait donc à la maison. C'est-à-dire que c'était le jardin qui va jusqu'à la route là-bas, et qui était appelé le Clos. Et en 1963, Marie Romain Rolland a décidé d'en faire un lieu, parce qu'il y avait beaucoup de place, évidemment, d'en faire un lieu pour recevoir des jeunes de tous les pays, pour des rencontres sur le pacifisme, toujours dans l'esprit humaniste et pacifiste de Romain Rolland. Donc ça a très bien fonctionné pendant pas mal d'années, pendant une vingtaine d'années. Marie Romain Rolland est morte en 85. Dans les dernières années, elle n'habitait plus vraiment là. Elle habitait à Paris, boulevard du Montparnasse. Et c'est là qu'elle avait toute la correspondance de Romain Rolland, qui est considérable, qui est une des correspondances les plus importantes de la Bibliothèque nationale, parce qu'il a correspondu avec le monde entier, avec aussi bien Gandhi que Freud, tous les noms apparaîtront petit à petit, mais enfin, sa correspondance est tout à fait phénoménale. Et elle a été rassemblée à la Bibliothèque nationale. Bon, il était historien au départ, hein, il a fait ses études à l'École normale supérieure, il était historien d'art, il est parti en Italie faire le fameux voyage en Italie que font les artistes. Et il a commencé à donner des cours d'histoire de l'art à la Sorbonne. Et puis, ces cours de l'art, petit à petit, se sont transformés parce qu'il était très musicien. Il jouait extrêmement bien, paraît-il. Et en fait, petit à petit, il a installé l'idée qu'à la Sorbonne, on devait étudier la musique de façon formelle, c'est-à-dire qu'il a mis en place la première chaire de musicologie. Avant, la musicologie n'était pas étudiée en tant que telle. Donc c'est lui qui, avec deux, trois comparses, qui a mis en place cette chaire. Et voilà, alors parallèlement, il avait on voit d'ailleurs dès ses premiers écrits, avant les voyages en Italie notamment, dans ses souvenirs, etc., on voit qu'il est quand même pris par la littérature et c'est vraiment, il veut s'exprimer de cette façon-là. Petit à petit, il va commencer à écrire, il a écrit du théâtre, il aimait beaucoup le théâtre, et il a commencé en 1903 son roman Jean-Christophe, qui était un roman qui a été traduit dans pratiquement toutes les langues dans le monde entier, qui l'a fait connaître partout. Il a eu le prix Nobel en 1915 pendant la guerre, mais entre-temps, il était faiblard, si je puis dire, du côté des poumons. Donc, comme dans le temps, quand les enfants étaient malades, on les envoyait à la montagne. Donc, il a tout de suite connu la Suisse. Ses parents qu'il était né à Clamecy. Ses parents l'ont tout de suite emmené en Suisse chaque année. Et donc, il a continué à beaucoup aimer la Suisse. Et quand la guerre a été déclarée en 1914, il se trouvait en Suisse. Donc, il y est resté et il s'est mis tout de suite à la disposition des prisonniers de guerre, de l'agence des prisonniers de guerre, parce qu'en fait, c'était une façon de pouvoir faire circuler les informations sur les prisonniers, aussi bien français qu'allemands ou d'autres pays. Enfin, c'était vraiment toujours dans un esprit d'humanité et pacifiste, puisque dès le début de la guerre, il a fait un pamphlet, enfin un manifeste sur le pacifisme, qui lui a valu évidemment d'être détesté en France par les gens qui étaient plutôt va-t-en guerre. Et donc, il est resté en Suisse à ce moment-là. Il a habité à Villeneuve à partir de 1922 définitivement. Donc c'est là qu'il a reçu tous les grands écrivains du monde entier. Il a lui-même un peu bougé, un peu circulé. Mais sa vie a été faite de rencontres à des hauts niveaux, parce que c'était toujours une façon de pouvoir convaincre par des rencontres avec des personnes d'autres pays. De ses principes de paix et d'humanisme. C'est les liens qu'il a tissés avec les gens étaient toujours des liens qui avaient qui étaient sous-tendus de vouloir la paix, de vouloir que les hommes s'entendent.
À l'instant, Martine Liégeois, présidente de l'association Romain Rolland, qui revient effectivement sur la vie et le parcours du prix Nobel de littérature 1915. Cet écrivain qui s'installa à Vézelay en 1938 et y mourut à la fin de l'année 1944. C'est l'occasion de revenir sur son idéal pacifiste, ainsi que sur le centre Jean-Christophe, voulu par sa veuve pour favoriser les échanges entre les jeunesses du monde. On retrouve Martine Liégeois juste après un nouvel intermède musical. Martine Liégeois enregistré le 25 juillet dernier dans le cadre du festival Nature en Livre. C'est Wagon Livre sur Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à midi.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Je rappelle que le festival Nature en Livre, ce festival littéraire éco-poétique, a un site internet que je vous encourage à découvrir. Vous pouvez également rejoindre l'association organisatrice de cette manifestation totalement gratuite qui, pour sa 6e édition, a déambulé dans la Nièvre, mais également dans l'Yonne, hein, à Ligny-en-Morvan, Château-Chinon, Lorme et l'étape vézelienne. Association Hostellerie de la Tour, 7 rue du Commerce, 58 190 à Monceau-le-Comte. L'interlocuteur privilégié, c'est Gertrude Dodard. Et puis, notre interlocuteur privilégié, le 25 juillet dernier, à Vézelay, derrière la maison Romain Rolland, c'est Martine Liégeois, présidente de l'association Romain Rolland, qui fait paraître très régulièrement les cahiers de brèves, l'association Romain Rolland, à laquelle vous pouvez également adhérer en payant votre cotisation. Vous écrivez et envoyez un chèque à Association Romain Rolland, 1 rue Colas Brugnon, 58 530 brèves. Martine Liégeois, toujours pour évoquer le prix Nobel de littérature 1915, Romain Rolland.
Alors, il était très populaire, effectivement. Oui, bien sûr, il était très populaire jusqu'à sa mort, puisque quand il est mort en 1944, Aragon a fait un grand manifeste pour qu'il soit enterré au Panthéon. Aragon était communiste. Après, il y a eu quelques histoires parce qu'on a les péguistes. Disaient que s'il fallait faire un hommage plutôt à Péguy en premier. Bon, et puis finalement, tout ça, ça a traîné, finalement, ça ne s'est pas fait, cette histoire de panthéonisation.
Ni pour l'un, ni pour l'autre.
Voilà, comme ça, tout le monde était pas de jaloux. Et après, il y a eu un effacement. Un effacement, alors qui est dû à plusieurs choses. Au fait que le pacifisme, c'est une vertu qui n'est pas toujours très bien appréciée. Et puis le communisme, il a été compagnon de route des communistes pendant, alors jusqu'au pacte germano-soviétique en 1939. Et là, à partir de ce moment-là, il a complètement rompu avec le Parti communiste. Pas avec les gens, parce qu'ici, à Vézelay, on a des photos où il est avec Maurice Thorez. Quand il y a un des textes là où il y a le stade de Clamecy qui est inauguré, là viennent Jacques Duclos et d'autres gens aussi qui est du Parti communiste. Enfin, c'était quelqu'un, Romain Rolland, qui avait une religion de l'amitié, quoi. L'amitié, c'était quelque chose qui comptait. Enfin, les hommes individuellement comptaient évidemment beaucoup aussi.
Merci à la présidente de l'association Romain Rolland, Martine Liégeois, que vous venez d'entendre. Merci à tous les participants de cette journée vézelienne du festival Nature en Livre. On vous proposera la semaine prochaine une deuxième et dernière partie, au cours de laquelle vous pourrez entendre Jean Lacoste, qui a d'ailleurs fait paraître aux éditions Bartilla le journal de Vézelay de Romain Rolland. Vous pourrez également entendre Alain Quévès, créateur des éditions Rhubarbe. Nous aurons, grâce à lui, l'occasion de revenir sur les principes et les essentiels de la littérature fantastique. Et vous pourrez également entendre la semaine prochaine Claudie Stassard des éditions La Goulotte. Je remercie Gertrude Dodard pour sa confiance, son enthousiasme et son dynamisme. Je salue également Thérèse Précigou, conseillère municipale de Vézelay et permanente de la bibliothèque de Vézelay. Saluons également Gisèle Didi, ainsi que vraiment tous les auteurs qui ont accepté d'être enregistrés dans leur lecture. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, toujours à 11h, 29 août 2026, sur Radion. Et en attendant, eh bien, vous pouvez relire les auteurs dont il a été question aujourd'hui, Romain Rolland, Marguerite Audoux, ou aller vous procurer les ouvrages d'Ella Balert, de Géraldine Doutriau et même d'Alain Quévès, qui signe un essai sur la littérature fantastique, et Edgar Allan Poe. Excellent congé de fin de semaine à toutes et à tous. Au revoir et à la semaine prochaine.